Bonsoir, rebonsoir. Vous venez de voir le film « L'espace devenait humain » d'Adrien Faucheux, un film sur Denis Gerbrand. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de l'auteur du film, Adrien, qui est donc cinéaste, mais également enseignant et programmateur. Denis Gerbrand, monteur aussi, pardon.
Et c'est toi le programmateur.
Non, et vous, tu prends un micro, voilà.
Oui, mais là, je te parlais.
Oui, oui. Voilà, bon, l'atmosphère est déjà bien établie. Denis Gerbrand, madame, messieurs, et Anthony Fian, directeur du recueil, qui est donc l'une des deux raisons pour cette rétrospective. On va commencer avec un petit jeu, c'est-à-dire je vais demander à Denis de réagir à ce film comme s'il l'a vu pour la première fois, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais donc aussi de dire quelques mots, comment ça se sent d'être quelqu'un qui observe toujours quelqu'un, des gens avec son cinéma, d'être observé. Quelques mots peut-être, Denis, sur ce que vous venez de voir et donc.
D'abord, merci Adrien, tu as fait un très beau film. On ne se regarde jamais que dans un miroir, et on sait bien que le miroir, il vous dit toujours que vous êtes le plus beau. Donc j'ai été chez le coiffeur après, comme vous pouvez voir. Mais indépendamment de ça, forcément, ça fait revoir des correspondances et des aspects de son travail auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, ce que je dis là dans le film, c'était donc des propos que j'avais écrits dans un premier temps. Adrien a travaillé sur les entretiens que j'avais donnés à droite, à gauche, au fil des temps. Et je me suis aperçu que, bien évidemment, j'avais évolué et j'ai eu envie d'écrire un certain nombre de préciser un certain nombre de points dans un texte qui est que tu as publié donc dans le livre, et donc tu as gardé quelques extraits, voilà. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Moi, je sais pas. Je peux évidemment pas. Quelle image ça donne de mon travail? Sans doute pas une image complète, mais c'est pas le but d'un film de tout dire. Voilà.
Adrien, une réaction à la réaction. D'abord, comment c'était travailler avec Denis?
Ce qui était très beau de travailler avec Denis au tournage, c'était on avait un protagoniste, un personnage qui était également metteur en scène et qui avait un sens très aigu de ce qu'il faisait et ce qu'il produisait au sein du plan, au sein de la séquence. Et donc c'était en ce sens un partenaire de jeu, disons, qui est très précieux, qui permet de faire des choses qu'on n'a pas prévues et qui permet de rester dans le champ de ce qu'on fait. Et j'ai été très sensible à ça. C'est rester dans le cinéma. C'est complexe de filmer un cinéaste. Et surtout de vouloir en faire un objet de cinéma et pas des entretiens ou de compiler des propos. On se projette dans l'objet qu'on va faire ensemble, et étant donné qu'il est lui-même praticien, cinéaste, cette projection se fait à plusieurs. La chance que j'avais aussi, c'était de travailler avec un chef opérateur exceptionnel qui nous fait l'honneur d'être venu pour assister à cette séance de Bruxelles, Vincent Pinkers. Et donc, on peut dire que ce tournage, nous l'avons fait à trois en termes de mise en scène, si on peut dire.
Anthony, qu'est-ce que ça vous, pour vous, qui va donc diriger la publication, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça a appris des choses sur Denis, le travail de Denis?
Oui, mais moi je. On m'entend bien?
Oui, on entend.
Bonjour à toutes et tous d'abord. Une réaction à chaud. Là, j'ai été sensible à ce que disait Adrien en introduction avant le lancement de la projection, à savoir qu'il avait. Enfin, sa volonté première, c'était d'éviter le portrait classique de cinéaste où il n'y aurait que des entretiens, que sa parole, et qu'il y avait aussi cette volonté de ne surtout pas, je crois que tu as dit, singer le cinéma de Denis. Donc tu as trouvé une forme propre, je crois, et j'ai été sensible à deux choses. Tout d'abord, c'est ce qui m'étonne, ce qui m'épate toujours avec Denis, c'est la grande clairvoyance qu'il a par rapport à son propre travail, la manière dont il arrive à caractériser extrêmement précisément et efficacement son geste documentaire dans plusieurs séquences du film. Et ce que je retiens aussi, c'est la manière dont les extraits sont insérés dans le film. Ils sont particulièrement bien choisis et je trouve que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas comment Denis, lui, le perçoit, puisque ce sont ses films, évidemment, mais moi, comme spectateur qui m'intéresse beaucoup au cinéma de Denis, j'ai été assez sensible à la manière dont, sur les extraits, on met du bruitage, de la musique. Et je crois qu'il ne dénature absolument pas les extraits. Ça donne une autre perspective sur les films. Voilà.
Et dans l'article que vous avez écrit, qui reprend dans le recueil, Denis, vous parlez de votre cinéma comme le cinéma de chambre, cinéma de rue. Bon. Connaissant vos films, on sait maintenant à peu près ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez quand même élaborer un tout petit peu là-dessus, s'il vous plaît?
Oui, c'est deux figures autour duquel s'organise mon cinéma. Il y a là, donc, je vais commencer par le cinéma de rue, qui est peut-être le plus spécifique dans mon cinéma, qui vient tout simplement aussi de la pratique de la photographie. Je te remercie d'avoir consacré une séquence à la photographie, parce que pour moi, la photographie, ça a été vraiment mon lieu d'apprentissage. On voit des photos du métro. J'ai presque envie de dire que c'est mon premier travail de cinéma. En tout cas, c'est le premier travail où je me sois confronté à cette position très particulière d'arriver dans un espace, l'espace des métros, l'espace d'un wagon, c'est un espace relativement fermé, mais un espace public, et au simple nom de mon désir de photographe, je lève mon appareil et vers quelqu'un et je le photographie, et quelqu'un que je ne connais pas, et quelqu'un à qui, à la limite, je ne demande pas « Est-ce que, monsieur, est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Je le regarde, je lève mon appareil et j'appuie. Après, il se passera ce qui se passera. Je me suis jamais fait casser la figure, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est en général, ce qui se passe, c'est complètement en silence. Je sais pas si vous remémorez on voit deux photos de femmes à la verticale, assises en attendant le métro, et les deux me regardent, et la jeune femme me regarde avec une certaine circonspection, mais la dame âgée, elle pose comme si elle était chez le photographe. Et c'est la prolongation de ce travail que je vais particulièrement exercer dans Et la vie. Hein, où dans Et la vie, il y a un certain nombre de séquences qui sont tournées, simplement je suis là dans la rue, je marche, je vois quelque chose, je filme, quelqu'un me dit « Ah, bonjour » ou je sais pas quoi, et je vais passer à quelqu'un d'autre, et puis à un moment, on... Parce que je... qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la rue, je suis seul, j'ai une caméra, donc qu'est-ce que je cherche avec cette caméra ? Et donc, il y a tout de suite... La caméra devient l'objet d'une interrogation mutuelle. Ah, qu'est-ce que vous faites ? Ah oui, ben, je m'intéresse à ça. Ah oui, ah bon, et on va partir. Et ça va aboutir sur des séquences. Alors, je ne sais pas, les personnes qui ont vu Et la vie. Il y a une séquence, par exemple, d'une toute jeune femme qui... est en apprentissage de couture, elle dit design stylistique, de styliste, mais il ne faut pas se raconter l'histoire. Et alors, qu'est-ce que faisait votre père ? Ah bah il était styliste. Ah bon ? Et ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Puis il a été en dépression. Et puis il a quitté ma mère. Et vous apprenez le métier. Enfin, c'est pas moi qui vais dire. Vous apprenez le métier qui a mis votre père au chômage. Mais tout d'un coup, il y a une espèce de gouffre qui s'ouvre devant nous et dans les. c'est donc cette idée que. Je serais avec un ingénieur du son, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Pourquoi ça ne pourrait pas se passer comme ça ? Parce qu'on serait l'institution cinéma. Un type tout seul avec une caméra, on lui file une paire de baffes et on prend sa caméra et c'est fini. Donc, à partir de là, total respect. Ah, il s'expose. Donc, puisqu'il s'expose, je peux m'exposer moi aussi. Il y a pas de cinéma sans risque. Moi, je suis tout à fait comme Michel Léris. Si je ne sens pas la corne du taureau dans quoi que ce soit un livre, un film ou une peinture, j'ai pas très envie d'y aller. Mais bon, on est tous pareils, j'imagine. Donc ça, c'est le cinéma de rue. Voilà. Hein, ça, c'est simple. Le cinéma de chambre. Bah, c'est beaucoup plus simple à comprendre. L'exemple le meilleur et le plus simple dans mon cinéma, c'est La vie est immense et pleine de dangers. Cinéma de chambre, quand on filme un enfant qui est pendant 3 semaines, 1 mois, dans une chambre stérile, c'est-à-dire dans une chambre avec laquelle nos masques ont l'air ridicules, parce que pour rentrer, vous avez des précautions évidemment beaucoup plus grandes, l'expression cinéma de chambre prend une certaine pesanteur. Et là, cette expérience, elle rejoint peut-être aussi le cinéma de rue, c'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est que filmer fondamentalement, qu'est-ce que c'est que le geste d'un cinéaste qui n'a pas prévu, donc un cinéma qui se construit dans le temps, c'est le propre du cinéma documentaire, c'est qu'il est dans le temps de son acte et dans l'espace de son acte. Et là, Ce que, évidemment, j'ai expérimenté au niveau le plus fort dans la chambre stérile avec cet enfant, c'est cet enfant qui était là depuis, pour des semaines, effectivement le partage d'un espace et d'un temps. Mais c'est aussi le partage d'un espace et d'un temps dans la rue, mais pas dans la... Voilà, c'est pas la même densité. Hein, et c'est pas la même... Voilà.
Et oui, Anthony.
Excuse-moi, Harry. Oui, j'aurais pu ajouter que j'ai donné une réaction à chaud tout à l'heure sur seulement deux aspects du film d'Adrien, mais j'ai aussi été évidemment marqué par la séquence des photos où tu redécouvres tes propres photographies. Puisque c'est effectivement des photographies dont on a bénéficié dans l'ouvrage qui contient un portfolio d'une douzaine une quinzaine de photographies de Denis. Donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Tu as été assistant opérateur, chef opérateur, tu as été photographe. Et donc en concevant cet ouvrage hein, avec Armel Pain et Willy Durand des éditions Warm qui auraient dû être avec nous ce week-end mais qui pour des raisons que vous pouvez imaginer qui touchent beaucoup de monde en ce moment ne sont pas là aujourd'hui et s'excusent auprès de vous. On a très vite décidé d'insérer des photographies de Denis dans cet ouvrage. Je les ai personnellement découvertes à cette occasion. Elles sont absolument formidable. Hein. Dans la présentation hier à la librairie, on en a parlé un petit peu et je me suis permis de lancer un appel aux éditeurs de livres de photographie, aux galeries, puisque je pense que vraiment ce travail de photographie devrait être plus connu. On a envie d'en voir bien davantage que la quinzaine que vous avez sélectionnée avec Willy. Donc la question de la photographie, elle est fondamentale chez toi. Les photographies qu'on a mises dans l'ouvrage, bon, on l'a un peu dit hein, ces derniers jours. On va attendre que...
Mon téléphone.
Ah, c'est tiens. On est dans le réel. Voilà. Ouais. L'imprévu.
Ce qui me marque dans ces photographies, c'est que, bon, on l'a un peu dit ces derniers jours, le cinéaste est déjà là. Il y a déjà un regard. Allez revoir. Parce que j'allais dire, bon, ton passage du cinéma, de la photographie au cinéma, on pourrait assez évidemment dire que c'est pour intégrer la parole, quoi. La photographie ne permet pas la parole. Le cinéma t'amène ce plus là. Mais à regarder ces photographies, j'ai d'une part l'impression que bon, alors certes, il y a des gens qui posent dans ces photographies, mais il y en a qui parlent déjà. Il y en a que j'entends déjà. Et il y a un autre aspect, enfin plus particulièrement, il y a une photo qui m'interroge et qui me permet de faire le lien avec tes films. C'est celle d'une table de chevet sur laquelle figure une photographie. Et à un moment donné, quand on a construit le livre, j'ai eu un regret que j'ai encore aujourd'hui, mais je ne peux en blâmer personne puisque j'aurais quelque part pu le faire moi-même. On n'a aucun texte. Je trouve qu'il y a... Bon, alors évidemment, le livre n'est pas parfait, ne couvre pas tous les aspects de ton œuvre extrêmement riche. Mais j'ai un regret par rapport à une question précise qui est celle qui revient très souvent dans tes films. Tes personnages documentaires, très souvent, sortent des albums photos et tournent les pages et reviennent comme ça sur leur vie passée. On a un exemple dans le film qu'on a revu hier, Amour Lap, mais je pense aussi à cette extraordinaire séquence de La République Marseille où cet ancien, on va dire voyou, sort un album photo à un moment donné. Alors je voulais peut-être te poser la question de... Voilà, comment t'en arrives à ça ? Parce que c'est pas rien, c'est pas un geste anodin que de sortir un album photo, de revenir sur un passé parfois très très lointain et de l'exposer à ta caméra. Comment voilà,
c'est un rituel, hein. C'est absolument un rituel. Quand vous allez chez des personnes, que vous commencez à parler avec elles, sous les personnes d'un certain âge, Eh ben, elles ont envie de vous montrer les photos parce que les photos, c'est des jalons de leur existence. Il y a ça dans Et la vie avec le couple de métallurgistes. Mais cet été, j'étais avec Nina Tsrimova, avec qui j'avais fait Avant que le ciel n'apparaisse. On était au Kyrgyzstan et la première femme chez qui on est allé, elle a sorti des photos. C'est un rituel du XXe siècle, il faut bien le dire, parce que je ne sais pas ce qu'on sortira comme photo de nos téléphones portables. Hein. C'est une autre question. Mais oui, voilà. Pour moi, la photo, c'est... Enfin, cet usage-là de la photo, c'est un usage mémoriel. Quand on prend une photo, on sait que c'est pour plus tard. Mais ça, c'est le geste, c'est un geste de l'art moyen dont parle Bourdieu. Hein. Je veux dire, c'est pas ça n'est en rien comparable avec le geste du photographe. Hein. C'est deux... voilà.
J'ai une question. Il y a une phrase de vous, Denis, qui m'a particulièrement frappé, et je suis heureux que j'ai à côté de moi un monteur aussi, parce que c'est de la phrase « Qu'est-ce que j'aime le montage ?» Est-ce que je peux vous relancer sur ce sujet, tous les deux ? Le montage, vous, le montage chez Denis, et vos réflexions sur le montage, Denis, d'abord, si vous voulez.
De toute façon, je regarde Adrien, parce que monter le film de quelqu'un d'autre, ça n'a évidemment rien à voir avec le fait de monter ses propres films. Hein. Pour moi, le mot qui correspond le plus sur le montage, c'est un état de jubilation dans lequel ça me met. Pourquoi ? Parce que dans le montage d'un film qu'on a tourné soi-même, il y a il y a un geste dont on n'avait pas conscience au moment où vous avez tourné. Se révèle un geste dont on n'avait pas conscience au moment où on tournait. Où je tournais en l'occurrence, et c'est sur ce geste que va se faire le montage. C'est ce qui se révèle de ce qui est enregistré par cet appareil. Donc je suis quand même, c'est moi qui cadre, mais d'une certaine manière, il y avait une logique du filmage qui dépassait toutes les intentions et l'acte précis, conscient du cinéaste. Ça va être beaucoup là-dessus que va se faire le montage, et bien entendu beaucoup sur ce qui a pu s'entendre et se dire au cours du tournage. Ce qui peut s'entendre, mais ce qui peut s'entendre et qui, parce que il y aura une coupe, parce que arrêter à un moment permet d'entendre, arrêter et relier éventuellement, et à ce moment-là mettre deux idées qui dans un flux de paroles, deux idées qui rapprochées ensemble vont en produire une troisième. Voilà.
Adrien.
Je ne sais pas répondre de manière générale sur le montage, c'est un petit peu trop compliqué. Du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose à dire de pas trop bête. Ce que je peux dire, c'est... Disons qu'avec les films que nous faisons qui laissent la part au hasard et à l'imprévu, au réel, et ses surprises. Le montage est une étape d'écriture fondamentale, complètement au cœur même de ce que le film raconte. Mais aussi, pour les films que nous faisons, je pense qu'il faut l'associer à l'écriture d'avant le tournage pour le penser de manière complète. Voilà, je peux guère dire plus là.
Et peut-être une question analogue, c'est aussi le changement de la pellicule à la vidéo et après au numérique. Dans quel sens ça, bon, on peut parler du montage, mais aussi en général, comment ça a changé votre travail, Denis?
J'ai la chance d'avoir vécu le spectre complet, puisque quand j'étais à l'IDEC et après, il n'y avait pas encore la vidéo. La vidéo est apparue dans les années 68, 69, 70, mais c'était une vidéo noir et blanc de très très mauvaise qualité. Ça n'avait pas de... Pour quelqu'un qui avait fait des études de cinéma, c'était inconcevable de filmer avec cet engin. Ça n'a pas empêché Carole Rassopoulos et d'autres de faire un vrai travail avec. Mais moi, je me sentais pas du tout de pouvoir faire ça. Le montage pellicule était très laborieux parce que vous coupiez l'image, vous coupiez le son, il fallait bien les garder ensemble pour pas être complètement perdu. C'était une manipulation très lourde, mais en même temps on était vraiment dans le montage, au sens où on combinait des images qui venaient
mais physiquement, oui.
Physiquement on pouvait les intervertir, les plans, on pouvait faire. Le montage vidéo a été une véritable catastrophe puisque vous étiez obligé de travailler en continu, d'enregistrer. Alors évidemment, la solution, c'était de prendre des séquences déjà montées et puis les mélanger avec des nouvelles séquences. Mais quand vous arriviez à un film comme Et la vie, je l'ai monté avec un banc VHS. Donc je ne sais pas si... Il y a peut-être certains parmi vous qui n'ont jamais vu des VHS. Mais une cinquième génération de VHS, vous arrivez vaguement à voir une image à travers la neige. Bon, il y a des gens que ça dérangeait, qui étaient incapables de voir. Quelqu'un comme Thierry Garrel, lui, il passait au travers des pixels et ça le dérangeait absolument pas. Mais c'est vrai que vous aviez un montage composite avec des images qui étaient toutes fraîches et d'autres avec complètement... Il fallait une certaine capacité d'abstraction pour comprendre là où on allait. Évidemment, le numérique, c'est l'essence du montage. Là, vous êtes juste en train de monter, et ça, c'est le grand bonheur, le numérique.
D'ailleurs, c'est le principal meuble, on peut pas dire ça, mais quand on vient chez vous, on voit des écrans. Vous êtes en train de monter, mais c'est quand même, ça prend une place importante. C'est chez vous, Denis.
Oui, je sais pas. Hein, moi, il y a des films que j'ai montés sur dans la salle à manger, hein, sur un coin, parce que monter un film en 16 mm, ça demande une sable de montage très très lourde. Comment vous allez l'amener? Là, ça demande un bon écran, des enceintes, pas forcément des grosses enceintes, mais des enceintes qui soient justes. Hein, c'est ce qui est important. Et puis, moi, c'est plus confortable avec un deuxième écran. Tout ça tient sur une table à peine plus grande que ça.
Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Parce qu'il s'agit d'une rencontre. Donc, oui. Pardon.
Je ne vais pas commencer par la question, mais merci d'abord donc à Adrien Faucheux et aux auteurs du livre du film et de l'ouvrage qui permettent d'éclairer pour moi le portrait de Denis Gerbrand. Dans ce portrait, moi, j'ai vu plusieurs choses, en fait. Certaines sont bon, assez claires, d'autres plus floues. Et c'est ce flou que j'ai envie d'approfondir et de prolonger. Dans ce qui me paraît clair, c'est le côté anthropologue, mais peut-être parce qu'on fait référence à votre grand-père, et donc je me dis qu'effectivement, il y a sûrement une filiation, parce que l'anthropologue, il va chercher... Bon, avant, ils allaient loin, chercher peut-être des formes de culture qui n'étaient plus les nôtres ou qui avaient disparu. Bon. Et je pense qu'il y a effectivement un aspect connaissance dans vos documentaires. Bon. C'est sans doute pas le plus important, ni pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Bon. Mais il y a quand même aussi l'aspect mémoire longue, sur laquelle on vient de parler un petit peu, que je retrouve dans beaucoup de films et qui me paraît important. Bon. L'autre aspect, qui est assez explicite même dans le film qu'on vient de voir, c'est le côté bricolage, enfin artisan du coup. Et vous insistez beaucoup là-dessus, même hier encore dans la présentation du film sur la rue de Lappe. Je pense que c'est plutôt une position de modestie, parce qu'il y a plus que du bricolage, ou alors il faut le prendre le mot un peu comme Lévi-Strauss le faisait, c'est déjà de l'invention, hein. Peut-être la rencontre de deux images en crée une troisième, ou de deux paroles en crée d'autres. Bon. Donc bon, ça pour moi, je peux le ranger, disons. L'autre aspect, je pense que derrière l'artisanat et le bricolage, il y a quelque chose qui est d'ordre artistique et qui pour moi est peut-être même entre la poésie et la philosophie, parce que quand même il y a une recherche du réel, mais alors lequel justement, c'est pas la réalité, c'est un réel donc qui a à voir avec l'invisible. Et ce que vous arrivez à rendre et que j'ai du mal moi à formuler, c'est précisément ce qui est enfin, vous travaillez avec des images, mais vous travaillez avec de l'humain. Bon. Et ce qui pour moi est quand même assez bluffant, c'est la manière que vous avez de rencontrer les gens. Parce que bon, je ne sais pas si aujourd'hui, et dans le métro, on pourrait effectivement, sans l'expérience qui est la vôtre, avoir ce rapport d'égalité et d'humanité directe, quoi. Bon. Et ça, je pense que ça relève quand même d'une réflexion, effectivement, sur, ouais, sans doute, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre entre deux personnes. Bon. Et vous avez, c'est pas moi qui ai évoqué Bourdieu, c'est vous. Et je me dis qu'effectivement, ça revient un peu à l'anthropologue, dans la recherche, par exemple, du sociologue ou de l'anthropologue, il y a ça aussi. Il ne sait pas exactement ce qu'il veut trouver. Il cherche quelque chose qui est de l'ordre aussi de la connaissance ou de l'humain. Bon. La relation d'entretien est très importante parce qu'il doit obtenir des informations, mais il ne sait pas exactement lesquelles. Donc là, c'est peut-être effectivement la situation la plus nue de la rencontre entre deux personnes. Bon. Alors, je ne suis pas très claire, mais... Bon. Et ma question derrière tout ça, c'était effectivement, finalement, qu'est-ce que vous cherchez dans ce réel-là, c'est quoi ? Est-ce que c'est parfois, on a l'impression que c'est la culture populaire, quand on voit la rue de Lappe, et c'est pour ça que je reviens à la mémoire longue, parce que la rue de Lappe, quand on la regarde aujourd'hui, un film de 84, effectivement, avec la gentrification de Paris, je veux dire, ça va être un document d'archive maintenant, quoi. Bon. Donc, c'est quoi votre recherche ?
Bon, on a jusqu'à minuit. Hein.
Là, je vous remercie. Vous avez balayé assez large le champ de mon travail. D'une certaine manière, j'aime mieux quand vous dites poésie, musique ou qu'anthropologie, parce que en rien, ça n'est une démarche d'anthropologue, en fait. Hein. Je ne fais pas d'études des comportements humains, je ne suis pas dans ce champ-là. Bien sûr, ça m'intéresse, j'en lis, mais C'est d'ailleurs assez marrant parce que j'ai envie de dire la même chose. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit deux pardons qui disent la même chose que quelque chose que je pense depuis longtemps. C'est-à-dire que ce qui, moi, me nourrit le plus dans mon travail, c'est la littérature. C'est pas l'anthropologie, c'est pas les sciences sociales. Les sciences sociales, je vais évidemment, quand je vais travailler sur Marseille, je vais lire sur Marseille, je vais comprendre, peut-être quelqu'un dans la salle pourrait m'aider, je retrouve pas, mais il y a un géographe absolument formidable qui a travaillé sur Marseille. Il y a un livre très, 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 très riche qui était sorti sur Marseille, comment il s'appelle celui-là, D'Alumbria, Massimo D'Alumbria, qui a écrit un livre qui donne une histoire populaire de Marseille qui m'a aidé à comprendre, à rentrer dans les quartiers, à comprendre l'histoire qui structurait. Mais qu'est-ce qui me donne envie de tourner chez quelqu'un? C'est peut-être ce qui va s'échanger dans un regard, tout simplement dans un regard. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui a changé au XXIe siècle par rapport au XXe siècle dont je viens, à ce XXe siècle bien présent dans ces photos dans le métro où on voit bien comment les gens sont habillés. Bon, là, on les voit très furtivement, hein, mais on saisit bien encore. C'est une société qui est encore moderne, contrairement à notre société. Pour qui la modernité ne représente plus rien, hein, ben, si je prends simplement cet exemple. Je pense néanmoins que si vous n'êtes pas dans des situations d'exclusion sociale, je veux dire que aller avec une caméra au pied d'une cité, enfin dans une cité HLM, vous avez des fortes chances de vous faire courir après par les dealers. Bon, d'accord. Mais fondamentalement, les êtres sont des êtres si vous n'êtes pas dans des situations de tension sociale particulière, ça se passera toujours comme toujours. Vous représentez, vous avez un outil qui représente et bien les personnes qui sont en face réagir par rapport à ça. Cet été, quand on était dans le Kyrgyzstan, les gens nous disaient « on ne veut pas passer sur YouTube ». Ok, au bout d'une semaine, il n'y avait plus de YouTube, ça n'existait plus. C'était simplement ils sont en train de tourner, on s'inscrit dans une société qui bouge, on bouge avec la société, mais dire que ce qui était possible je vais pas me vieillir quand même, mais ce qui était dans les années 70 reste encore largement possible. Hein?
D'autres questions?
Si je peux me permettre à Rip. Alors je ne sais pas ce que Denis cherche, mais j'ai ma petite idée sur ce qu'il trouve comme spectateur de tes films. Bon, dans l'ouvrage collectif là, qu'on a fait à 15, on s'est tous échinés à définir, à caractériser ton cinéma, à définir un parcours, une méthode, un geste, une esthétique, etc. Mais heureusement que Armel et Willy ne sont pas là d'ailleurs. Il y a une manière beaucoup plus efficace que de définir ton cinéma, c'est d'écouter tes personnages documentaires qui parfois ont des fulgurances qui passent donc par la parole et qui définissent mais extrêmement précisément ce qu'est ton cinéma. Alors il y a évidemment l'exemple de Cédric, dont il est question dans le film d'Adrien, qui dit la vie est immense et est quand même pleine de dangers, quelque chose comme ça. Donc ça, je crois que ça définit déjà très bien ce que tu cherches, mais j'ai toujours d'autres exemples en tête, notamment dans Et la vie, ou une ouvrière qu'on a aperçue également dans le film d'Adrien, à la fin du film, dit « On n'est pas des héros, moi je dis ». Et je crois que ça aussi, c'est d'une grande efficacité. Toujours dans Et la vie, il y a cet ouvrier que tu as filmé à Genève, je crois, qui à un moment donné, face à une question que tu viens de lui poser, à laquelle il ne sait pas trop comment répondre, il répond « Là, Denis, il va falloir que tu m'orientes ». Là aussi, je pense que ça définit parfaitement ton cinéma. Et dernier exemple, c'est dans le voyage à la mer, où l'un des campeurs dit « La vie est faite d'impondérables ». Alors là, je crois qu'on a tout, quoi. On a tout, on a ce fameux triangle dont tu parles très, 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 très souvent. Le filmeur que tu es, les filmés et le spectateur que tu prends toujours en considération. Très tôt et jusqu'au bout, puisque tu accompagnes toujours tes films. Tu vas à la rencontre des spectateurs pour échanger avec eux.
C'est vrai que d'une certaine manière, je n'ai pas répondu à votre question. Excusez-moi. Dire ce que je cherche, qui serait capable de le dire en une phrase enfin, je suppose qu'en me posant cette question, vous le savez. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un écho à ses propres questions, à ses propres questionnements. On cherche à aller filmer les autres. On cherche tout simplement à avoir une image plus grande de ce que c'est qu'être humain. C'est ton expérience d'humain. Ah, on peut vivre comme ça une expérience d'humain. Ah ben oui. Ah ben tiens. Donc ça renvoie à votre propre vie. Ah oui, ma vie, elle s'est construite comme ça, mais il y a des gens qui construisent leur vie comme ça. Ah bah peut-être que j'aurais pu construire ma vie comme ça, je sais pas. Mais c'est chez les autres, on cherche d'autres expériences de la vie. Quand je vais filmer les enfants de Curie. Les enfants à Curie plutôt, je vais filmer des enfants absolument ordinaires, et Cédric, qui est le dont tout le monde dit quand on voit le film, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce petit garçon, machin, merveilleux, être merveilleux, mais c'est un garçon comme les autres. Ce qui construit le film, et c'est ce qu'il vit, et l'interrogation dans laquelle il va se mettre, dans laquelle on va être ensemble tout le long du film, mais en lui-même. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est une extension de soi-même à travers les autres, peut-être ? Que dire ?
D'autres remarques, questions ? On va peut-être passer à Van der Keuken, enfin, à votre regard sur Van der Keuken, Denis.
Oui, je dis un petit mot sur le film, donc.
Voilà, peut-être plus que
peut-être.
Petit mot. Peut-être.
Deux petits mots, trois petits mots.
Peut-être.
Allez, quelques petits mots. Je cherche la date, là, j'ai un trou. Quand est-ce qu'il est mort ? Tu pourrais me dire, toi ?
2001.
Merci. Merci les historiens. 2001, Van der Keuken meurt. Simone Vanier, qui est la présidente de documentaires sur grand écran à cette époque, qui a monté Documentaire sur grand écran. Documentaire sur grand écran, c'est une association qui propose du documentaire, du documentaire de cette même manière, hein, documentaire qu'on pourrait appeler d'auteur, comme on veut, me propose de faire une lettre... propose à ce moment-là de faire des lettres à différents cinéastes, et moi je lui dis, je vais faire une lettre à Van der Koeken. Pourquoi Van der Koeken ? Souvent, on accole mon nom à Van der Koeken, mais je pense que c'est tout simplement parce que j'ai un nom flamand. Donc voilà, on va mettre les flamands ensemble. D'une manière plus intéressante et plus sérieuse, Van der Koeken, la découverte de Van der Koeken pour notre génération de cinéastes, c'est la découverte d'un cinéaste qui, à la fois, va dans le réel, interroge le réel, au sens d'interroger, de poser des questions. Donc il y a un art de l'entretien dans lequel je me reconnais assez largement. Je pense en particulier à Jungle Plate, Flat Jungle, et quelqu'un qui est dans une extrême liberté dans la recherche de la forme. Donc quelqu'un, je vais dire là ce que je dis dans le film, pour qui la forme est pensée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'apporte un cinéaste à un autre cinéaste ? C'est d'abord la liberté. Et c'est un cinéaste qui emporte son spectateur dans un contrat expérimental, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il convie son spectateur dans sa salle de montage à essayer à rapprocher et à travailler la matière film avec une très grande liberté et talent, j'aime pas trop ce mot, mais avec c'est complètement abouti, quoi. Donc c'était vraiment pour grosso modo, hein, notre génération de cinéastes, il y a Wiseman d'un côté, le cinéma direct, pur et dur, qui n'intervient pas, Wiseman aimait à dire, moi je ne repère jamais, parce que si je vais quelque part, je vais regretter. Donc je vais regretter de ne pas avoir filmé ce que j'ai vu. Donc quand j'arrive, quand je commence un film, je commence le film et Wiseman va filmer des heures et des heures et des heures, et après il va passer des mois et des mois et des mois pour faire son montage. L'autre école, l'autre grande figure, c'est Van der Koeken. Van der Koeken, dans son... pour ma génération, hein, mais je pense que je partage ces grandes figures. Et puis avec la figure totémique, parce que je ne pourrais pas quand même parler du cinéma si je ne parle pas de Jean Rouch, et en particulier de Chronique d'un été, qui pour moi, quand j'ai vu Chronique d'un été, je devais être en troisième année, j'avais déjà 3 ans d'IDEC derrière moi. Quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit, c'est là que je dois aller, quoi. C'est dans ce sens-là que je vais aller.
Et puisque vous parlez évidemment aussi beaucoup de votre propre cinéma, dans ce film, on a donc décidé de terminer cette session avec ce film. Juste encore quelques rendez-vous dans la semaine. Demain, on se retrouve de nouveau, Denis, à 20h pour Et la vie. Mercredi, avec Adrien et Denis pour La vie est immense et pleine de dangers. Jeudi, Grand comme le monde. Et vendredi, un double bill, comme on dit en anglais. À 18h, Une fête foraine, un film très très rare. Et à 20h, Le voyage à la mer, un film qui sera présenté par Bruno Deloye de Ciné+. Je vous remercie tous les trois pour votre présence et votre présence à vous. Et je souhaite une bonne fin de séance. Merci beaucoup.